Alors dites-moi, Mathieu Esprit, créative entrepreneur, comment est-ce que ça a pris naissance?
Alors, Créative Entrepreneur, c'est une association loi 1901 que nous avons montée en juillet 2008. Moi-même et Alexandre Guinet, qui est donc le cofondateur de Créative Entrepreneur. C'est une association qui a pour but de démontrer que l'entreprise peut réaliser de la valeur économique, donc des profits, mais qui peut aussi en même temps avoir un fort impact social pour les communautés défavorisées. Alors c'est une réflexion qui nous est venue, je dirais, après nos deux emplois respectifs. J'étais moi-même responsable export pour une entreprise française en Australie puis en Asie. Alexandre était pour de son côté banquier en salle des marchés à la Société Générale, donc côté banque d'investissement. Et puis je crois que nos activités respectives manquaient un petit peu de sens. Et puis nous avons décidé de monter ce projet. Donc Créative Entrepreneur, et puis de démontrer effectivement qu'on pouvait allier un travail qui est économiquement viable, qui fait du profit et qui en même temps est porteur de sens et qui a un impact social pour les communautés défavorisées notamment. Alors pour ce faire, nous sommes dit qu'il était important de le démontrer par l'exemple et puis d'aller voir ce qui se passait sur les continents avec des pays en voie de développement. Nous avons décidé de commencer par l'Amérique latine. Donc nous avons traversé l'Amérique latine du mois de juillet 2008 jusqu'au mois de mars 2009. Nous avons traversé 12 pays, du Mexique au Brésil, à la recherche d'entrepreneurs d'exception qui ont monté des projets, qui créent de la valeur, donc font du profit et qui en même temps répondent à un problème social ou environnemental.
C'était une sorte d'enquête sur le terrain que vous vouliez faire.
Voilà, tout à fait. L'idée était d'aller à la recherche des initiatives, des entrepreneurs, de passer quelques jours avec eux, d'étudier le modèle financier, de voir quels problèmes ils adressaient sur le terrain, et puis de se rendre compte si oui ou non cette solution était viable économiquement, si elle était réplicable à grande échelle, soit au niveau national, voire international. Et puis tout simplement d'écrire une étude de cas, de faire une vidéo et puis d'interviewer la personne qui est à l'initiative de ce projet. En même temps, l'ONG qui souvent se retrouve être un acteur très important dans ces modèles puisque l'ONG sur le terrain a la confiance de la population et permet une remontée d'informations vers l'entreprise qui souhaite mettre un projet en place. Et puis nous interviewions également les clients pour savoir si effectivement le service ou le produit qui leur est destiné répondait bien à leurs besoins, ce qu'ils en pensaient, et puis vraiment avoir un angle de vue partagé sur les initiatives.
Vous avez rencontré combien d'entreprises ?
Alors, en Amérique latine, nous avons rencontré environ 60 entrepreneurs et nous avons écrit environ 30 études de cas plus en profondeur avec vraiment le modèle financier. Et après, j'ai oublié de vous le dire, mais après ces 8 mois en Amérique latine, nous avons décidé de repartir en Asie. L'Asie qui est une zone très intéressante et qui compte beaucoup de projets de ce type, liés aussi à un niveau de pauvreté très avancé. Et donc nous sommes partis 2 mois et demi en Asie. Nous avons fait l'Inde, le Bangladesh, le Vietnam et les Philippines, où là nous avons revu environ 25 initiatives. Alors c'est des initiatives qui sont soit à l'origine de très grandes entreprises qui ont lancé des projets de façon locale, ou bien de structures moyennes qui adressent un problème du pays.
Concrètement, comment vous financiez ce voyage ?
Alors c'est un projet qui a été financé par des entreprises privées, des mécènes, qui sont Groupama, Société Générale et Silor, des entreprises qui avaient récemment ouvert des départements de développement durable et qui souhaitaient communiquer en interne sur ces nouvelles pratiques. Donc nous avions une dynamique de fil rouge où tous les mois nous envoyions un portrait d'un entrepreneur avec une vidéo associée. Et puis donc ces entreprises faisaient de la communication interne pour imager concrètement ce que veut dire développement durable. Et donc suite à ce fil rouge de chaque mois, nous avons réalisé une conférence avec nos partenaires pour aller un petit peu plus loin dans l'explication et puis voir comment ces entreprises, donc ces 3 entreprises mécènes, pouvaient elles aussi intervenir dans ces modèles et comment elles pouvaient utiliser leur cœur de métier pour mettre en place des initiatives concrètes sur le terrain. Alors ça s'image par exemple pour Groupama, on pourrait imaginer un modèle de micro-assurance. On connaît tous les modèles d'assurance et on se dit que la micro-assurance pouvait être un terrain intéressant à regarder pour ces grandes entreprises.
Il y a la micro-finance ?
Voilà, tout à fait. Donc
la micro-assurance.
La micro-assurance fait partie de la microfinance. Je crois qu'on connaît bien maintenant le microcrédit. Le microcrédit, c'est des prêts de 40, 50 jusqu'à 150 dollars pour des petits entrepreneurs destinés au lancement d'une activité génératrice de revenus. La micro-assurance serait tout simplement de l'assurance pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc avec des primes très réduites, qui leur permettraient d'assurer soit au niveau de la santé pour eux ou leur famille, soit au niveau de leur micro-entreprise. Donc ça peut être un panel de produits d'assurance comme on l'a dans les marchés classiques, mais destiné à toutes ces communautés qui ont beaucoup moins de ressources financières.
D'accord. Et alors maintenant, donc à l'aube de 2010, qu'est-ce que vous retirez comme enseignement et quels sont vos projets en France ?
Alors, les enseignements, effectivement, ce parcours sur le terrain nous a démontré qu'il y avait des modèles vraiment très intéressants. Alors, plus ou moins avancés, il faut savoir que ces nouveaux modèles sont pour la plupart, pour les plus anciens, c'est 5 ans. Donc, c'est des modèles qui sont encore assez jeunes, qui n'ont pas encore forcément tous fait leurs preuves au niveau économique. Mais certains modèles sont plus avancés. Je vais juste vous en citer un qui est un petit peu notre cas coup de cœur qu'on a rencontré au Costa Rica. C'est une entreprise qui s'appelle Assembly, c'est qui a voulu régler le problème de l'accès aux soins de la vue. Comme vous le savez, les lunettes, c'est un produit qui coûte assez cher. Au Costa Rica, ça valait 150-200 dollars. C'était principalement dans les grandes villes. Donc pour quelqu'un qui a très peu de ressources financières et qui vit dans une zone reculée, il fallait passer une journée donc sans travailler pour aller jusqu'à la ville, payer le transport, payer la prestation, plus les lunettes. C'était mission impossible, clairement. Et puis cette femme a décidé de s'attaquer à ce problème. Elle a, grâce à des achats en Chine de lunettes, de verres et de montures, réussi à avoir des lunettes à 9 dollars. Alors bien sûr, c'est des lunettes qui ne sont pas ultra légères et qui ne sont pas fashion, on va dire, mais c'est des lunettes qui répondent aux besoins et qui sont tout à fait concluantes en termes de qualité. Et puis, elle a fait un partenariat avec le gouvernement qui lui a permis d'accéder à toutes les écoles du pays, où elle a donné un kit pour faire des tests de la vision à chaque meilleur élève de chaque classe dans le pays. Donc c'est des canaux de distribution qui étaient très économiques pour elle, et comme ça elle a pu toucher toutes les écoles du pays. Et puis donc tous les élèves qui étaient sélectionnés dans chaque classe était inscrit sur une feuille. Et deux semaines plus tard, Rebecca, donc, qui est la personne qui a monté cette initiative, venait avec son équipe dans l'école et faisait passer des tests approfondis et complets à tous ses élèves, et puis remettait une paire de lunettes ou bien réglait, ça pouvait être d'autres soucis aussi au-delà de la lunette. Mmh. Elle a réussi comme ça, au bout de 17 ans, à monter 7 cliniques au Costa Rica et à toucher 3 millions de personnes sur les 4 millions que compte le pays. Donc elle a réglé le problème de la vue dans un pays entier. Et aujourd'hui, elle cherche à développer son modèle. C'est un modèle qui est économiquement viable. Elle a fait l'année dernière 5 millions de dollars de chiffre d'affaires et 250 000 dollars de bénéfices nets. Donc c'est un modèle un peu coup de cœur parce que ça touche une industrie qui est assez parlante quand on voit une paire de lunettes sur les yeux d'un petit enfant. Et c'est un modèle très, très successful aujourd'hui qui montre et qui nous a démontré que ce modèle était viable, qui avait des bons exemples et qui nous incite à aujourd'hui sensibiliser un maximum les entreprises. Alors pour nous, la suite du projet qui s'est terminé donc mi-septembre, c'est toujours un travail de sensibilisation à travers des conférences que nous faisons à Paris ou dans le sud de la France, comme nous avons fait récemment sur Nice. C'est aussi un travail de sensibilisation par rapport aux écoles de commerce où on intervient, on donne des cours à la Sorbonne à Paris. Et puis l'idée, c'est de sensibiliser un maximum de monde sur ces nouveaux modèles et puis d'inciter les entreprises françaises à créer des projets pilotes et en tout cas regarder ce marché d'un autre œil. C'est un marché de 4 milliards de personnes, donc 2/3 de la population mondiale. Aujourd'hui, sur le marché classique, on se rend compte qu'il y a un niveau de saturation assez élevé. Et nous pensons qu'il est très important aujourd'hui de regarder ce marché. Mmh. Il y a beaucoup de besoins qui sont non couverts pour ces populations. C'est des besoins primaires comme l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau potable, l'accès au logement, l'accès aux soins de la santé. Et les entreprises leaders aujourd'hui, je pense, ont tout intérêt à regarder ce marché.